mercato des programmes.
L'échange estival d'émissions au sein du réseau Radio Campus France.
Campus, il est 10h.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Uchronia. Je suis Pénélope Solette et je suis accompagnée, as usual, du professeur John McLaughlin. Bonjour professeur.
Bonjour.
En qualité de témoin du jour, nous avons le plaisir de recevoir le frère de Carter Burke, John Paul Burke. Bonjour.
Bien le bonjour.
Vous êtes conseiller référent à la NASA pour la toute jeune Welland-Utani Corporation. Uchronia, les chroniques du temps latent. Alors au sommaire de notre émission, un épisode consacré au phénomène de xénomorphogénèse et de la présence d'autres vies extraterrestres dans le cinéma de science-fiction. Il faut dire que nous avons été littéralement harcelés de demandes de nos auditeurs sur le sujet. Cette séance sera ponctuée de respiration musicale avant de terminer par nos recommandations, évidemment subjectives, la séquence Actuchronia. Aujourd'hui, nous nous proposons de mettre en lumière le film Aliens. Aliens, dit Le Retour, réalisé par James Cameron et sorti en salle en 1986. Un film difficilement classable. Ce n'est plus un film d'horreur, sûrement d'angoisse, ancré dans la science-fiction, mais pas dans la fantasy, qui repousse les limites de la catégorisation et du genre. Jusqu'où peut-on se dépasser pour devenir une icône, une héroïne interplanétaire qui va bouleverser toute l'industrie du cinéma? Eh bien messieurs, nous allons pouvoir aborder notre premier sujet, si vous le voulez bien, les films de monstres au cinéma avant James Cameron. Qu'en dites-vous?
Les films de monstres qui commencent au cinéma par les films interprétés directement de l'univers de Jules Verne, avec les films les plus anciens de Méliès, et puis ensuite les films des aliens des années 60.
Alors vous avez tout à fait raison, professeur. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a une inspiration peut-être d'Hergé avec Tintin, Objectif Lune. Il y a tout un travail de Ray Harryhausen en 1963. Je pense à Jason et les Argonautes.
Ou Simbad le Marin.
Tout à fait, tout à fait. Alors on est sur une approche... Ça changera peut-être plus avec Cosmos 1999 ou la série Star Trek. Mais sinon, le monstre dans l'histoire de la représentation fantasmagorique, je dirais que c'est plus soit un côté, un humain qui va être transformé, une sorte d'humanoïde augmenté ou déformé. Et puis en face de ça, on a plus... dans la littérature biblique, la fameuse créature. Et je vous mets à part les Frankenstein, Marie Shelley, tout ça.
Les fameux Léviathans de la Bible. Mais c'est surtout qu'aux États-Unis, ces fameux monstres ou aliens, ce sont finalement les communistes qui pourraient envahir les États-Unis. Et donc, du coup, il fallait se défendre contre ces êtres informes qui avaient une capacité à se transformer en une espèce de... vers de terre ou de poisson, un peu comme dans La Créature du Lac Noir, une horreur.
Oui, tout à fait. Et puis, alors, vous parlez de ça, vous avez tout à fait raison, professeur. Les Américains et les Anglo-Saxons en général, ils ont souvent fait la distinction entre l'alien, alors...
L'étranger.
L'étranger, mais sous-entendu peut-être le Mexicain, l'Asiatique...
Ou le Canadien.
Baf. C'est pas pareil, c'est plus le cousin. Mais le foreigner, qui est alors, l'étranger aussi, mais plus l'européen, c'est le gentil étranger.
Le blanc, quoi.
Alors, c'est vrai que là, on est sur une approche peut-être vers l'inconnu et au-delà. Hein, ce film n'est pas un remake, ce n'est pas un reboot, c'est une suite original, scénarisé par James Cameron.
Mais... Et qui travestit d'ailleurs la première œuvre de Ridley Scott.
Alors, travestit...
Qui l'habille.
Oui. Bon, pour moi, c'est un film magnifique, hein, quand même, je tiens à le dire. Hein. Alien, le huitième passager, 1979. C'est un film génial. Alors, c'est un film d'horreur. Et c'est aussi, il faut bien comprendre ça, les scénaristes, dont le créateur des personnages, hein, Dan O'Bannon, qu'on retrouve dans de nombreuses grandes franchises, ils ont voulu reprendre le concept de Jaws, les Dents de la Mer, célèbre film de Steven Spielberg. Et l'idée, c'était, on fait les Dents de la Mer dans l'espace. Ça, c'était le pitch de départ d'Alien. Le huitième passager.
Oui, parce que c'était pas un remake des Godzilla des années 60.
Non. Et du coup, les producteurs et les scénaristes ont été chercher, ils ont cherché plusieurs réalisateurs potentiels, et ils sont tombés sur Ridley Scott, cet anglais, qui avait été quand même remarqué avec les Duellistes, hein, par exemple.
Et qui avait besoin de créer une créature, et d'où l'inspiration de Giger, l'auteur suisse des créatures d'aliens.
Alors tout à fait, Dan O'Bannon, qui connaissait très bien toute la bande à Jodorowsky, Mobius, et j'en passe.
Qui composait Sous Acide.
Par exemple, a présenté les œuvres de Giger, qui en 1975 commence un peu à lancer... Le mouvement dit de la biomécanique suite au décès de sa partenaire Lee. Et il va commencer à dessiner des œuvres très noires, très organiques, très difformes pour essayer de ne pas stigmatiser une personne ou une autre. Alors c'est aussi très sexualisé et on retrouve ça jusque dans des tarots divinatoires. Et donc en présentant les œuvres comme le Necronomicon 4, Ridley Scott va tomber en amour sur cette esthétique qu'aura générée Giger, mais sur des toiles. Hein. On est sur des toiles faites à l'aérographe. Donc il a quitté une carrière d'architecte d'intérieur pour sa passion artistique. Tout à fait.
Il maîtrisait d'ailleurs totalement la technique de l'aérographe.
Un peu comme Schuiten.
Oui.
Donc nous étions sur les monstres. Alors là, Aliens, le directeur Scott, est-ce qu'on peut tout monstrer?
Peut-être faut-il une présentation de ce film.
Un petit pitch, s'il vous plaît.
Alors oui, bien sûr. Dans ce film, Ripley accompagne un détachement de Marines coloniaux qui se rendent sur la planète LV-426, une colonie spatiale humaine en terraformation et qui ne donne plus de nouvelles et de signes de vie. Et où la présence de la créature du premier film Alien est identifiée. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils y vont, et ils y vont armés, nombreux, prêt à castagner de l'alien sans aucune forme de procès. Sauf que le film ne se passe pas tout à fait comme prévu dans le scénario et s'ensuit un jeu de massacre absolument délicieux dans les couloirs de la station spatiale.
Oui, c'est une définition de délicieux, on est d'accord. Oui.
Moi j'aime beaucoup.
Non mais moi aussi, c'est juste délicieux.
Alors c'est vrai que si on compare, et C'est dommage de vouloir comparer ça. Hein, je vous dis, Alien, le huitième passager, a terrorisé les spectateurs et inspiré de nombreux cinéastes. Et je vous renvoie au documentaire Memory, The Origins of Alien d'Alexandre O'Philippe, qui décortique ce chef-d'œuvre de science-fiction. Mais on est vraiment sur une inspiration de Giger et en même temps de toute l'œuvre de Francis Bacon, des récits horrifiques de Lovecraft. On est vraiment sur des projets vendus comme une odyssée spatiale, un film d'épouvante.
Un film d'épouvante qui est avant tout un huis clos. Un huis clos qui se passe dans le vaisseau le Nostromo, et où l'équipage, en fait, qui est de simples ouvriers de l'espace, sont confrontés à un phénomène surnaturel, mutant, en fait, qui les affecte d'abord, décime l'équipage, et finit par se régler par le personnage le plus important, en fait, du vaisseau, qui est Ripley, donc une femme qui est en capacité de tuer l'un des monstres les plus puissants et les plus efficaces de l'histoire du cinéma.
Oui. Alors, et en plus, hein, la baseline de l'époque, l'accroche de l'affiche, c'est « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ».
Mais Alien, c'est différent. Alien, c'est un film où finalement Ripley, qui est une victime dans le premier, qui est une simple survivante en fait, du Nostromo, prend les choses en main et décide en fait de... Ben, littéralement botter l'arrière-train de ces créatures mi-vers de terre, mi-scarabée.
Et c'est l'approche originale. Donc James Cameron a entièrement écrit le scénario et pour tout faire tourner autour de ce personnage d'Hélène Ripley, et Sigourney Weaver au départ ne voulait pas du tout être dans ce film. James Cameron, c'est un spécialiste des effets spéciaux. On le voit... notamment dans la Galaxie de la Terreur 1981, qui va être une sorte de copie mixée d'Alien, le huitième passager, et d'œuvres plus comme Freddy, les griffes de la nuit, des choses comme ça. Et Cameron va vraiment se devenir une référence d'un côté sur des scénarios et de l'autre côté sur la technique et les effets spéciaux apportés dans les productions cinématographiques. Ouais. Et c'est tout le faux semblant de ce film que l'on va décortiquer ensemble, c'est que le pitch de ce film, c'est Aliens, This Time, It's War. Maintenant, c'est la guerre. Donc on s'attend à un film vraiment de guerre.
Et d'action.
Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qui va être le propos de ce film, par-delà les scènes d'action et les scènes très militarisées. Mais c'est là où on se rend compte que tout ce qui était prévu ne pourra pas se passer.
C'est le piège tendu par Cameron. Il vous présente un film de guerre, un film où des enjeux sont simples et clairs, et au final, chaque personnage ne maîtrise absolument pas en fait, le destin de l'histoire.
Merci messieurs, c'est absolument passionnant. Je vous propose maintenant une première respiration directement inspirée par notre sujet du jour, avec Get Free, interprété par Major Lazer et remixé frénétiquement par Andy C. Fermez les yeux et préparez-vous à une poursuite avec un xénomorphe dans les couloirs de Sulaco. What can I do to get the money? Ne cherchez pas à changer de station, vous êtes bien sur Uchronia. Uchronia, les chroniques du temps latent.
Alors oui, monsieur Berg, je voulais d'abord vous remercier de la présentation et de toutes ces informations absolument précieuses et surtout de vos remarquables documents que vous nous avez fait écouter, surtout le dernier qui est absolument saisissant sur la compréhension de l'univers de d'Aliens, vraiment.
Merci beaucoup, professeur. Mais je suis un fan absolu de ce que vous faites, donc dès que je peux contribuer et aussi à laver un peu l'honneur de notre famille, je ferai ce que je pourrai. Alors vous souhaitez peut-être que je vous parle de ces capsules, hein, c'est parce que donc en travaillant sur un nettoyage expérimental pour la NASA des débris d'un satellite qui était en orbite géostationnaire derrière la Lune, en fait on a récupéré des enregistrements qui se sont avérés venir des débris du Sulaco et de cryocapsules.
De la propriété de la Welland Industries.
Tout à fait.
Exceptionnel.
Oui, donc c'était donc une capsule de Newt qui voulait prévenir Ripley que Burke était en train de créer un bazar, on peut le dire, hein, dans le laboratoire avec le facehugger d'Aliens. Hein.
Donc c'est ça, c'était sur la station de terraformation sur LV-426. Et donc c'est un document inédit qu'on a retrouvé.
Merci beaucoup.
Mais écoutez, je vous en prie.
Saisissant.
Alors, Aliens illustre une nouvelle ère, celle de la femme qui gère, la chef de meute, quand ni les hommes, ni les cyborgs n'en sont capables. Alors, messieurs, qui me parle de la belle Hélène Ripley ?
Ripley, le Rambo féminin, on peut le dire. Alors, plus Rambo 3, évidemment. Hein.
Alors, professeur, vous faites bien de me dire ça. Sachez que donc James Cameron, au moment de la fin du tournage de Terminator, va écrire deux scénarios en même temps, Aliens, Le Retour, et Rambo 2. C'est lui le scénariste du film.
Ah oui, on l'oublie trop souvent.
Alors c'est vrai qu'il a, James Cameron a une passion, une passionata pour tout le côté militaire, la capacité de l'être humain à se dépasser, même dans les pires situations, qu'il retrouvait beaucoup à l'époque dans les films et voilà, la capacité de survie des Marines. Et donc, c'est ce qu'il va essayer de transposer. Peut-être que quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez, hein, c'est que James Cameron n'est pas américain, il est canadien.
On peut le dire d'ailleurs, avant Aliens, très clairement, à part les films sur une Jeanne d'Arc, on avait rarement en fait des femmes en capacité de montrer les muscles. Là, on voit Ripley, c'est Mamie Back to Business. Hein.
Bah c'est une superwoman des années 1980. Et son personnage va même dépasser un autre rôle féminin d'exception mis en avant par James Cameron, Sarah Connor.
Oui, c'est, répète, une femme, une mère, solide, intransigeante, une première quand même au cinéma, avec des cheveux courts et un gros pétard, c'est extraordinaire.
Et le lance-flamme accroché dessus.
Oui, et Newt dans les bras.
Et c'est ça. Donc on est vraiment à du...
Je protège et je flingue.
Make America great again.
Mais avec une femme.
Et sa propre femme, à l'époque de James Cameron, hein, c'est Gayle Anne Hurd. Elle a notamment produit Terminator, Le Pic de Dante, Armageddon, ou la célébrissime série The Walking Dead. Donc voilà, on est quand même dans un terrain conquis de James Cameron qui a vraiment voulu, contre l'avis des producteurs, de faire d'Ellen Ripley le personnage central. C'est vraiment ce qui a permis à Sigourney Weaver d'aller dans ce film, alors qu'elle n'imaginait pas du tout...
Reprendre son rôle.
Reprendre son rôle, et puis elle ne voyait pas ce qu'il y aurait à faire. Et c'était la magie de James Cameron de proposer quelque chose d'un autre niveau. Par rapport à Alien.
En comparant d'ailleurs à Alien, où finalement l'officier, le warrant officer Ripley, qui est une victime en fait de l'Alien, qui a du mal à s'en défendre, qui à un moment est acculé par l'Alien en fait, et à deux doigts d'y passer, et subit les choses, alors que là c'est tout l'inverse. C'est le personnage principal, la pierre angulaire du film, et surtout un personnage asexué. C'est-à-dire que certes, c'est le personnage principal et le protecteur, mais ce n'est pas un objet sexuel dont un autre personnage en fait, du film va en faire les frais.
Et c'est ce côté militariste, hein, c'est bien pour poser les bases de personnages qui ont des réflexes martiaux, de bonne tenue, surtout quand ils sont très très loin dans l'espace, où ils ont besoin de s'auto-organiser, de s'auto-gérer entre eux. Et ce thème militaire est quand même un thème de façade. Le film bourrin avec des Marines qui vont tout raser. Ils ont des armes à déclenchement nucléaire. Sauf que, et les codes de ce film vont être repris point par point, tiens, comme par hasard, par David Fincher dans son film Fight Club.
Et Aliens 3.
Et pour le coup, Aliens 3. Mais c'est vrai qu'on voit que Cameron prend un malin plaisir à démontrer l'incapacité à opérer comme initialement prévu. C'est-à-dire que les militaires partent très confiants, on a tout ce qu'il faut,
on a du
matériel, de la technologie, on a du gun en masse. Et quand ils arrivent sur place, eh ben, c'est pas possible.
Un peu comme la chute du Faucon Noir. Ils sont sur deux, ils sont bien équipés, ils ont face à eux en fait un ennemi qu'ils estiment largement moins équipé et qui peuvent penser prendre par surprise, et au final rien ne se passe comme prévu.
Et ça me rappelle une réflexion de Giger sur les aliens, hein, qui était: la question qui se pose pour les humains n'est pas de savoir combien d'entre eux survivront dans le système, mais quel sera le genre d'existence de ceux qui survivront. Et ça, c'est ce qui va poser ce fameux personnage de Newt, la petite fille qui est retrouvée par l'équipage en arrivant sur la planète, qui a pu survivre, malgré tout ce qu'on peut penser, à cette folie aliénistique.
Bon, alors là, j'aimerais quand même savoir qui est le vrai méchant du film. C'est l'alien que l'on vient embêter, ou Burke, enfin, sans vous manquer de respect.
S'il vous plaît.
Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça fonctionne, un xénomorphe.
Alors, un xénomorphe, comment ça marche? C'est très simple. Donc, le personnage principal, finalement, l'alien, ne démarre que d'un œuf. Hein, d'où l'affiche, en fait, du premier film, où on voit l'œuf, en fait, transpercé par la lumière. Cet œuf, en fait, fait sortir une espèce d'araignée, donc le facehugger, qui vient se coller en fait directement sur le visage de sa victime, plutôt un mammifère, pond en fait un œuf à l'intérieur et ensuite disparaît et meurt. Donc cette grosse araignée en fait tombe au sol, inanimée. Et à maturation en fait de l'individu, le chestbuster en fait sort en fait de la poitrine de la victime et ensuite se sauve tel un rat de laboratoire. allumé par la lumière. Et ensuite se développe et donc se transforme en xénomorphe, en qualifié d'alien, mais c'est jamais prénommé comme ça. Peut-être Jacques ou Paul, mais pas plus.
Alors vous avez tout à fait raison, professeur, on est sur une distinction entre des alphas, des bêtas, des omégas. Dans les années 1970, il y a un fort intérêt sur la zoologie et toute l'approche naturaliste qui se développe de manière scientifique. Et du coup, il y a un fort intérêt pour les scénaristes autour d'insectes comme la guêpe, qui va elle-même pondre dans un hôte, ou encore la fourmi, dans son mode de fonctionnement, et même avec son fameux sang acide, hein, qui fait que chaque étape de cette alien, finalement, n'ont qu'une fonction, reproduire et étendre l'espèce par-delà la galaxie.
C'est une scène d'ailleurs assez fascinante dans Aliens, le retour, où on voit en fait les militaires tuer en masse en fait des aliens avec leurs fusils mitrailleurs, et ces aliens en fait, une fois décédés, finissent par percer le sol en fait avec leur propre sang, et ainsi réussir à s'enfuir et à fuir en fait les militaires qui leur font face.
Et alors c'est vrai que là sur Aliens, James Cameron va plus loin que ce qu'a proposé Ridley Scott dans sa première œuvre, et il va proposer la fameuse reine alien, ce qui ne plaira pas du tout à Ridley Scott, qui va tout faire avec Prometheus et Alien Covenant, et en essayant d'influencer par ailleurs le développement des comics. Dans les années 80, on va voir les X-Men chez Marvel proposer des Broads. On va voir un peu un alien ça va fantasmer, inspirer tout le monde. Et du coup, Ridley Scott va revenir avec une préquelle sur Alien pour essayer de remontrer la genèse entre les architectes et ce liquide noir qui sort de comme dans un champ de pavot sur LV-426.
Rappelons quand même au passage qu'Aliens, le retour, a été un succès phénoménal.
On va y revenir, hein, mais c'est le génie de James Cameron qui a fait les meilleures suites de films de l'histoire du cinéma. Terminator 2, Aliens,
Piranha 2,
Avatar 2, voilà. Et il est reconnu pour ça. Cette capacité à transcender un scénario original sans dénaturer l'œuvre. C'est ça qui est intéressant.
Et donc dans Alien, finalement, cette reproduction du facehugger est le fantasme absolu de la grossesse, en fait, chez l'homme.
Tout à fait, tout à fait. On vous colonise, mais de l'intérieur.
Quelle horreur.
Et donc, Burke, vous n'aviez encore une petite capsule à nous faire écouter ?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Attention, c'est parti.
Question. Peut-on ramener le prélèvement alien sur Terre et préserver la ressource humaine? Incompatibilité fonction. Reboot. Retour. Confirmation.
Alors, c'est vrai que ça me fait repenser en réécoutant, hein, que avec Bishop, c'est le robot humanoïde du film Aliens, comme dans le premier, on avait Ash qui avait un peu pété un câble. Et là, donc, c'est quand même une ancienne génération de cyborgs, parce que j'ai entendu que que Bishop dialoguait avec l'interface des vaisseaux, hein, du Nostromo et du Sulaco, le MU-TH RU-6000, pour la petite histoire technique.
Merci beaucoup pour ces précisions. Et merci surtout pour cet échange absolument captivant. Je vous invite à partir dans un nouveau voyage créatif. Alors ici, c'est Louis Chédid, c'est Mathieu Chédid, excusez-moi, qui nous invite sous sa bonne étoile.
Système solaire, une chose mystérieuse.
C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse.
Ce soir, en regardant les étoiles,
ne changez pas de fréquence, vous êtes bien sur Uchronia. Uchronia, les chroniques du temps latent. Avant la pause, nous étions sur cette quête de la représentation sans limite de l'espèce parfaite, en reflet de notre insatisfaction perpétuelle. Donc j'aimerais aborder maintenant notre dernier sujet. Mais la vie extraterrestre, qu'est-ce que c'est ?
Alors, comment vous dire ça ? Un Cameron a cherché dès ses débuts à participer à cette aventure depuis qu'il a été réalisateur de Xenogenesis, et de présenter un scénario possible de l'avenir de l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a peu de personnes en capacité à l'époque, je pense à Philippe K. Dick, mais c'est vrai que Cameron a cette capacité de nous projeter dans le futur de manière beaucoup plus concrète que même ne peut le proposer, par exemple, d'un côté George Lucas, ou Ridley Scott sur le premier Alien.
Oui, parce que finalement, les films de George Lucas, c'est une façon un petit peu de réécrire l'histoire. Quand on pense à Coruscant et les bases de la République en fait, intergalactique, on pense tout de suite au Sénat romain.
Oh bah, tout à fait.
Et l'organisation de la République romaine, qui ensuite subit en fait, le joug d'un dictateur qui, chez les Romains, est Jules César et qui est l'empereur en fait, avec son fidèle Dark Vador, qui pourrait être son Brutus, et qui finit par transformer en fait cette république équilibrée en empire intergalactique comme un nouvel empire romain. Donc, plutôt que d'utiliser effectivement des soldats romains, des espèces de ninjas et de sages japonais.
Bon, après... et donc, ce qu'avait développé assez succinctement pour en faire une accroche contextuelle Ridley Scott, là, James Cameron va vraiment développer ce côté explorer, coloniser, exploiter les ressources, on dirait presque un Karl Marx à l'époque. Et un pitch qui va redévelopper sur Avatar. Hein.
Alors c'est sûr que de toute façon, pour un Américain, les Canadiens sont des communistes.
Oui, certainement. Alors cette capacité qu'a eu James Cameron à inventer ou à rendre crédibles des innovations, des découvertes technologiques, alors moi je pense à la terraformation, hein, puisque donc les colons qui arrivent sur LV-426 sont là pour créer de l'oxygène et adapter cette planète aux conditions de vie de l'espèce humaine.
Alors ça, c'est typiquement en fait le fantasme actuel de la NASA qui reste persuadé que si on veut pouvoir s'établir sur Mars, il va falloir transformer la planète Mars en nouvelle planète Terre.
Et là, la semaine passée, même l'Agence spatiale européenne a admis qu'il serait possible de pouvoir envoyer des colons et des explorateurs sur un satellite aux confins de la galaxie qui serait rempli de métaux rares et précieux et qui permettrait de faire cette transition socio-écologique qu'on n'a pas pu encore avoir jusqu'à aujourd'hui.
Alors typiquement, si l'homme voulait aller coloniser un autre environnement, la cible serait donc l'étoile suivante par rapport au Soleil, qui est Alpha Centauri, et pour pouvoir y aller, techniquement un voyage qui mettrait un temps infini, l'hypothèse avait été émise de l'hibernation, comme les ours, comme les marmottes, et faire hiberner en fait de force des êtres humains dans de la cryo-hibernation, dans de la neige carbonique, et les réveiller quelques heures, quelques minutes en fait, avant d'accéder et avant d'arriver à destination.
Oui, c'est ça. Alors les fameux cryotubes hein, qu'on retrouve dans les vaisseaux et dans cette logique de la saga Alien, bon, on le retrouve déjà dès 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est vrai. Mais là, c'est poussé un peu plus loin. Ça devient assez crédible. Et c'est vrai que je pense à cette scène d'introduction dans Avatar, qui est magnifique en 3D quand on voit les cryotubes empilés les uns derrière les autres sur 40 mètres de profondeur. C'est assez hallucinant. Je pense aussi au début de ce film d'Aliens, quand Ripley revient sur la station orbitale. Hein, donc ils sont quand même malins parce qu'elle reste en quarantaine, elle est sur une station spatiale, elle ne vient pas directement sur Terre.
Pas un seul instant, elle remet les pieds sur Terre.
Pas un seul instant. Et du coup... dans sa chambre, on voit, et on le retrouve dans le scénario original de Cameron, que bah, derrière elle, il y a un mur haute définition qui va projeter des images de nature, pour essayer de créer un peu un environnement visuel dans une chambre sans fenêtre.
Et c'est toute l'hypothèse en fait des scientifiques de la NASA, c'est qu'à partir du moment où vous décidez de partir en exploration spatiale, vous ne pouvez plus remettre les pieds sur Terre, vous n'êtes plus adapté en fait au format terrestre. Donc il faut recréer tout votre environnement, réadapter et vous donner l'illusion en fait d'être sur Terre alors que
toute sortie est définitive.
Vous ne pourrez plus jamais y remettre les pieds. On le voit bien avec les cosmonautes ou astronautes qui passent plus d'une année en fait dans les stations orbitales. Lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils se cassent le fémur, ils sont en incapacité de remobiliser leurs muscles, ils ont des insuffisances au niveau de leur mémoire, et puis quelque part, fondamentalement, ils raccourcissent en fait leur espérance de vie. Il faut le savoir.
Ça me fait penser aussi à une autre, peut-être avant de passer à autre chose, mais je pense à ce fameux exosquelette de manutention qui va servir pour la scène presque finale d'anthologie entre Ellen Ripley et le duel avec la reine alien.
La symbiose homme-machine, où en début d'ailleurs de film d'Aliens, où on voit des manutentionnaires en fait utiliser en fait cette espèce de chariot élévateur en exosquelette. Vous rentrez dedans, vous vous asseyez, vous prenez les commandes et puis vous déplacez en fait des caisses. Et de cet objet du quotidien de l'exploration spatiale, ça devient une arme fatale pour maîtriser un alien qui se débat et qui est évidemment projeté dans l'espace, comme évoqué en fait dans la saga Avengers.
Oui, pareil. Tout à fait. Monsieur Burke, vous n'auriez pas une dernière capsule à nous proposer ?
Eh ben, c'est parti.
Celle que nous attendions avec impatience. Merci beaucoup.
Je crois qu'on comprend tout. Hein.
Ah, mais tout est dit, je crois.
Donc c'est surtout, quand le professeur. Surtout quand le chat exhorte Ripley à ne pas retourner sur la planète. Enfin, je veux dire, c'est clair, c'est limpide.
C'est poignant.
Non, vraiment tout est dit.
Merci beaucoup, monsieur Burke.
Bah, je vous en prie.
Merci, oui.
Document vraiment exceptionnel. J'espère que nos auditeurs reconnaissent notre chance. Eh bien, écoutez, messieurs, après ces débats haletants, je vous propose encore une petite respiration musicale. Et cette fois, ce sera le titre Renegade par Kavinsky. Something like the fools on Poupée. Something like the icing on cake. Ne cherchez pas à changer de radio, vous êtes bien sur Uchronia. Uchronia, les chroniques du temps latent. Alors avant la pause, nous étions sur une nécessaire compréhension des aspects techniques. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le méta. Alors, professeur, il me semble que vous avez réalisé des croisements génétiques d'espèces à donner en pâture à cette alien pour l'exterminer.
Alors oui.
Exterminer cette sale race. On m'a parlé d'une version tour taupe, une version blobfish.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, un tour taupe, pour faire simple, j'ai essayé d'imaginer donc une nouvelle espèce croisant un tourteau, donc un crabe, hein, avec une taupe. Leur donner la capacité d'explorer le noir au fond des océans. Bon, alors, c'était pas une réussite. Alors, du coup, je me suis plus pensé sur le développement du blob, hein, un être comme ça, un petit peu mutant et en capacité de se développer à l'infini. Et le croiser avec un poisson, donc pour le faire se développer dans l'océan et ainsi occuper une. Mais ça n'a pas trop marché.
Ah mais professeur, moi je croyais que vous aviez fait ça pour auto-dégénérer l'espèce alien. Parce que vous n'aviez pas fait des tentations aussi avec une taupe à nez étoilé, des espèces un peu sous race interspatiale pour que les aliens se. Finissent par s'entre déchirer.
Alors c'est toute la question, c'est-à-dire que vous partez d'une hypothèse nulle et puis après vous divaguez, hein, c'est la digression. Mais c'est vrai que quand je pense quand même à ces espèces aliens qui sont absolument fascinantes, c'est le miroir inverse en fait de l'espèce humaine où finalement ils finissent par nous faire comprendre aussi qu'ils sont capables de nous dominer, de nous coloniser et de nous faire comprendre qu'il y a bien pire que nous, en fait, dans la galaxie.
Alors, l'alien n'est donc pas un animal, hein, mais donc bien un être doué de pensée, capable de rivaliser avec nous, c'est ça ?
En tout cas, une colonie en capacité de se développer aussi à nos dépens.
Alors, vous pourrez retrouver, hein, je pense, il y a une énorme littérature des groupes, des fans autour des théories alienistiques. On verra se développer dans cette franchise, la première grande franchise cinématographique hyper populaire. Donc après, il y aura
Et spatial,
Alien 3, David Fincher, Alien 4, Résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Ensuite, on bascule sur les
Aliens versus Predator.
Tout à fait. Et puis,
qui croise le personnage de Predator, qui est un personnage inauguré avec Schwarzenegger et dans la jungle d'Amérique centrale, un espèce d'être venu de l'espace qui se met en compétition avec les hommes. Et donc du coup, naturellement, ce guerrier ultime veut affronter le monstre ultime qui est l'alien, dans les films Aliens versus Predator. Mais qui sont allés encore plus loin, puisque même l'univers en fait du jeu vidéo, avec le jeu vidéo StarCraft, a développé donc toutes les colonies Zerg qui s'inspirent directement en fait des reines aliens pour développer une espèce mutante en capacité invasive bien plus grande que l'être humain, ou encore les films Starship Troopers qui voient l'humanité affronter des colonies d'insectes qui viennent du fin fond de la galaxie. Et qu'ils leur envoient des missiles et qui détruisent les grandes conurbations sur Terre.
C'est ça. Alors c'est vrai que bon, Ridley Scott et James Cameron ont été capables un peu de tenir les rênes. Après, il va y avoir quand même des impératifs commerciaux de la Fox qui a la gestion des droits.
Ah, les producteurs.
Et du coup, à chaque fois, hein, Jean-Pierre Jeunet, on va lui reprocher son côté comédie. Noir, mais qui, bien sûr, avec tous les cuts, on voit pas tout le développement. David Fincher, c'est pareil, tout le côté noirceur et finalement revenir à l'essentiel quand il n'y a plus d'armes, comment on fait pour pouvoir chasser le chasseur.
Sachant que l'alien de Aliens 3 de David Fincher est un croisement entre un xénomorphe et un chien.
Oui, c'est ce qui vous avait inspiré, c'est ça ? Essayer de faire une sous-espèce.
on tente, on essaye. C'est la magie de la science, c'est l'expérimentation.
Et le pouvoir de la curiosité.
En tout cas, je tenais à vous remercier de ne pas avoir trop forcé le trait à me poser des questions inquisitrices sur mon frère, qui, bien sûr, hein, c'est un personnage qui a été odieux dans sa vie et dans ses relations inhumaines, mais bon, c'était un manager.
Passionné par l'argent.
Entre autres. et par le voilà par le respect de son employeur
et de lui-même.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Monsieur Burke, déjà pour ces échanges intelligents et si éclairants. Merci des capsules que vous nous avez proposées.
Je vous en prie.
Je vous rappelle quand même, chers auditeurs, chères auditrices, qu'il s'agit de documents exceptionnels que personne n'avait entendus avant nous. Donc merci beaucoup à John Paul Burke pour votre expertise. Merci cher professeur McLaughlin pour vos avis éclairés.
Il vous en prie.
Et merci à notre technicien Frock from the Wood qui nous a mis en onde aujourd'hui ou en orbite, j'hésite encore. Pour conclure, chères auditrices et chers auditeurs, place maintenant à Actuchronia. Pour aller plus loin sur cette thématique et explorer votre côté obscur, nous vous invitons à voir, revoir, visiter ou lire. Par exemple, le musée du cinéma et de la miniature 60 rue Saint-Jean à Lyon dans le 5e, où vous pourrez approcher pour de vrai la reine alien grandeur nature, celle utilisée sur le film et le Saluko. L'époque où était filmée une maquette hyper détaillée. Bon, ouais. Dans le même musée, vous pouvez également rêver devant le bikini de la princesse Leia. Un vrai voyage.
Non, moi, je recommande à toutes et tous aller filer voir ce super musée à côté de dans le vieux Lyon, à côté des funiculaires.
Et emmener vos enfants. Il y a un vrai parcours. Un autre musée qu'on pourrait proposer aussi, celui de H.R. Giger, au château de Gruyère, en Suisse. Ça vous fera une petite...
Magnifique. En plus, c'est là où on revoit son côté designer, hein, parce qu'il va jusqu'à à proposer des chaises, des fauteuils comme le lounge. Voilà, il y a tout un décor, il y a tout ce qu'il faut.
Voir aussi le film documentaire Dark Side de Belinda Salin, qui est consacré justement à Giger, le maître de l'obscurité, qui est sorti en 2016. Le livre de référence, évidemment, Alien Xénographie. Et puis les films qui viennent d'être réédités en 4K suite à Alien Covenant. Donc attention, si vous recherchez des bonus d'exception, ils sont sur le DVD édition Prestige, intégrant le fameux Director's Cut. En effet, jusque-là, l'édition d'Alien en 4K restait une totale inconnue, alors même que le Alien de Ridley Scott est disponible dans ce format depuis des années maintenant.
Bah, c'est-à-dire que oui, vous avez raison, ils ont fait que les films de Ridley Scott en 4K, et il y aura peut-être à Noël Titanic en 4K remasterisé, et donc peut-être un jour, on verra un 4K d'Aliens. Mm-mm. Mais pas pour l'instant.
Bon, à ce jour, seuls 3 films de James Cameron sont disponibles en 4K. Terminator 2, les deux premiers opus d'Avatar, et donc la fameuse édition de Titanic qui devrait sortir le 15 décembre. Le scénario d'Aliens, pour les vrais fans absolus, est disponible assez facilement sur le net en PDF. Et vous trouverez également une édition française prestigieuse, mais le plus souvent en VO, celle illustrée, à peu près 250 euros. Parlons aussi, une petite dernière info de Fede Alvarez. Fede Alvarez, le cinéaste uruguayen, celui à qui l'on doit Evil Dead et Don't Breathe, qui a projeté sa version du 9e film de la saga Alien, qui s'appelle Romulus, et que même Ridley Scott himself a déclaré que c'est un chef-d'œuvre respectant son héritage. Rappelez-vous, on n'est pas forcément l'image que vous percevez de nous. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est le moment de nous quitter. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode du Chronia. En attendant, retrouvez-nous en podcast et pour les prochains épisodes en FM sur le 92.2, sur le DAB+, sur tous les postes modernes, en direct live sur le site www.radiodijoncampus.com. Uchronia, les chroniques du temps latent. Thank you.
faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. Et ces ondes-là, on en trouve partout, sur Terre, mais aussi dans l'espace.
Et oui, c'est tout de même prodigieux. Nous assistons à la naissance.